Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, condamné, victime, un dialogue possible. Une série de Johanna Bedeaux, réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a la question du pardon et le vide qui s'ouvre après un procès. Ce moment où l'on se demande comment vivre après, avec les idées noires, la peur, l'incompréhension et des questions sans réponse. Il y a aussi l'espoir de trouver une piste pour aller au-delà de la logique punitive, cette idée de réparer les torts et de renouer avec des pratiques de compensation, des rituels, voire même le souvenir de Saint-Louis sous son chêne. Mais après les idéaux, il y a la réalité, le crime, la douleur, la terreur et l'impulsion qui soudain a laissé la place à des actes qui nous dépassent, à cette inconcevable irruption de la violence qui pourtant fait partie de la vie, comme en fait partie le désir de se venger, et tout ça, forcément, n'incite pas à se parler. Alors pour commencer, les personnages. Des jeunes gens assassinés, des victimes qui ont des choses à dire, des psychanalystes, des hommes cagoulés et armés, une femme qui vit dans la peur, des hommes qui ont tué, une criminologue qui choisit ses mots et une animatrice qui y va par étapes. Ensuite, le décor. Une conférence, la Marne, des procès, un coup de feu, le souvenir de Foucault, la part de souffrance du criminel, la perte irréversible de la victime, le choix des aveux, la colère, l'impossibilité de vivre avec ses actes, des portes, des sas de sécurité, des talkie-walkies, des alarmes et beaucoup de mal-être. Aujourd'hui, troisième épisode, on va commencer la réunion.
Il faut relire le cours de Michel Foucault sur les anormaux. D'un cours dispensé en 1975, où il étudie le moment où le juge va faire porter sa décision sur la peine, n'opentant sur le sujet juridique d'une infraction définie par la loi, mais sur un individu qui est porteur de caractéristiques psychologiques ou autres. Et voilà, comme dit Foucault, le vilain métier de punir qui se trouve ainsi retourné dans le beau métier de guérir.
Les rencontres, par Johanna Bedeaux et Angélique Thibault.
Remplacer guérir par restaurer, réparer. Et alors, qu'importe au fond la sévérité de la peine ? Si en complément, il y a la justice restaurative. Si Michel Foucault a pu dire que nous avions une justice qui s'innocentait de punir en prétendant traiter le criminel, aujourd'hui, on le restaure. Et quel est le moteur de tout ça qui s'inscrit tout à fait dans la rationalité punitive contemporaine ? La responsabilisation de l'auteur de l'infraction et la déresponsabilisation des diseurs de peine et plus largement de l'État par rapport à une société profondément inégalitaire.
Pierrette Poncella. Où est-ce que vous vivez, Alain, vous ?
À Vitry-François.
Où est-ce que c'est ?
Dans la Marne.
Dans la Marne.
Entre Paris et Nancy, si vous voulez. Je suis à 2 heures de Paris et puis à 1h15 de Nancy.
Et vous avez toujours vécu là-bas ?
Oui, je suis né là-bas et puis j'y vis encore aujourd'hui.
Alors moi, je ne sais pas trop pourquoi je suis là. Peut-être pour essayer de trouver des réponses pour mieux aider ma fille.
Ouais, bon, c'était bon, il y a presque 20 ans maintenant. Hein.
Je me suis demandé ce matin si...
Fabien venait d'avoir 20 ans.
Être face à vous, pour moi, c'est très difficile.
C'était 1995.
Parce que ça me rappelle le procès.
Donc, un 21 procès, novembre, où, à Reims, donc, il sortait d'une réunion d'athlètes de haut niveau. Il était au moment dans les 5 meilleurs espoirs français au niveau du VTT. Et bon, Fabien, malheureusement, il attendait devant le Crous où ça s'est passé. Et puis le meurtrier, il lui a mis le pistolet sous la tempe pour lui prendre son baladeur. Et puis le coup est parti pratiquement aussitôt, quoi, sans...
Et puis...
Fabien avait 20 ans, lui, il en avait 21.
Bah, je sais pas comment me reconstruire. Je sais pas comment aider ma fille. Ils l'ont détruite. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On était heureuses, on avait tout. Et puis en une nuit, tout bascule. J'ai l'impression qu'ils m'ont tout pris. Ma fille, elle est tombée dans... dans un mutisme dont elle a du mal à sortir. Elle n'aimerait pas me savoir ici, je crois.
Et moi, si vous voulez, le jeune, bon, un des jeunes que Fabien attendait est arrivé bon, quelques minutes après et nous a tout de suite téléphoné en nous disant ben, « Fabien est allongé là sur le trottoir, il a pris une balle dans la tête, bon, on craint le pire. » Et donc... on est arrivé au CHU pratiquement en même temps que lui, quoi, puisque les soins ont duré un moment sur place. Et on savait déjà, il nous avait dit, bon, il est en mort cérébrale et bon, c'est qu'une question de décision quand on l'arrête. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est pas la question de l'aide, c'est la question de dire, ben, est-ce que bon, c'est vraiment il y a pas d'issue. Et arrivé au commissariat de police, bon, tout de suite l'inspecteur qui était chargé de l'enquête nous a sorti le pistolet comme ça, le pistolet qui avait servi à assassiner notre fils. Et puis en nous disant, ben de toute façon on sait où il est, ne le cherchez surtout pas, on s'en occupe demain matin à 6h, on le prend, on l'arrête. Après, au moment, il était peut-être 1h du matin quand on est sorti du commissariat de police. Et là, bon, malheureusement, la confirmation de la nuit était là et bon, il y avait pas d'issue, quoi. C'était un peu, c'était éparpillé tout ça, quoi. Et puis après, pourquoi lui, hein? Ça. Et puis après, bon, quand on peut pas refaire, quand c'est écrit, c'est écrit. Pour un simple baladeur, bon.
Et le procès est arrivé combien de
alors,
temps
le procès
après
est arrivé quelques trois ans après, parce que c'était novembre 95 et le procès a eu lieu début décembre 98.
Et alors, en quelle année vous entendez parler des rencontres détenues victimes?
Alors, j'en entends parler juste avant la première. Le procès, c'est jamais suffisant. Parce que le procès, en fait, ça dure 2 jours. Ça se fait vite, on n'a pas beaucoup la parole. Moi, j'ai exprimé que je l'avais eu la fin du premier jour où j'avais pu exprimer, bon, peut-être pendant 10 minutes, un quart d'heure, un certain nombre de choses. Qui était Fabien, comment tout s'était passé, jusqu'à les derniers mots, j'ai pu exprimer, et ils sont encore là aujourd'hui, hein. C'est qu'il nous manquait beaucoup, quoi. Puis il peut pas en être autrement, mais c'est... Et quand j'ai dit ça, bon, il y avait beaucoup de gens qui étaient avec nous, qui étaient là aux assises et qui nous connaissaient. Et je sais que ça s'est terminé dans l'applaudissement et que le président a tout de suite dit « La séance est levée, rendez-vous demain matin à 9h ». Donc il n'y a pas eu... Pouf, ça a acheté le... Et alors... C'était bien, c'était pas bien, je sais pas. Mais on attendait qu'il y ait une réaction ou quelques mots, peut-être après, pour, je dis pas pour soutenir ce que j'avais pu exprimer, mais bon, c'était. Pour moi, il y a un blanc, là, qui est resté. Alors, autant j'étais en retrait, j'avais une appréhension, j'avais pas envie de me retrouver. Pour moi, c'était le fait de me retrouver en face de meurtriers comme ça, qui me pesaient. Et puis, dans ma tête, ça tournait. Et puis, je me suis dit, mais attends, moi, j'ai des choses à dire aussi. Donc, dès ce moment-là, quand Sabrina Beducci, donc la directrice de Ninavem, que je connaissais pas, quand un jour elle m'a téléphoné et qu'elle m'a repassé un mail après pour me donner un certain nombre d'indications, j'ai dit oui, je suis partant. Ça ne s'arrête pas à tout ce qu'on a pu expliquer, tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu être fait, mais que par rapport à nous, les victimes, bon, eux, ils ont oublié au bout d'un moment. La sanction, elle est tombée, ils sont en prison, ils ont leur vie en prison, leurs petites habitudes, et puis ils pensent qu'une chose, c'est sortir. Leur objectif, c'est sortir. Nous, on est condamnés à perpète. Parce que le drame, il restera toujours. Moi, Fabien, il ne sera plus jamais à la maison. Ce qu'on a construit, ce qu'on a voulu construire pour lui, on en fait quoi? Et le manque, il sera toujours là. Alors que eux, il n'y a pas cette... Un détenu, il ne sait pas si on lui dit pas.
Le criminel de votre fils, il a pris combien d'années?
Il a pris 20 ans, dont les deux tiers en incompressible.
Quelque chose à quoi on pense pendant.
Est-ce que ça aujourd'hui vous suivez encore? Est-ce que vous suivez le fait que donc là il y est encore?
Non.
Il est sorti.
Il est sorti il y a quelques années déjà.
Alors peut-être que quelques personnes ici pourront m'aider. Pourtant, je suis très, très entourée, mais malgré ça, elle ne va pas mieux. Et tant qu'elle n'ira pas bien, je n'irai pas bien. Voilà. Pour l'instant, c'est tout.
Écoute, je me permets de donner un ressenti. C'est que moi, l'histoire du père de mon fils date d'il y a 10 ans. Et pendant 10 ans, suite au problème de mon fils, divers et variés, je l'ai fait suivre. Des psychologues, des psychiatres, des... partout. Et puis, la semaine dernière, j'ai pris rendez-vous pour moi-même avec une psy. Et en fait, elle m'a expliqué que tant que je ne m'aidais pas, je ne pouvais pas l'aider. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais peut-être perdu 10 ans, qu'on serait peut-être plus fort aujourd'hui. Après, je ne regrette pas, hein, les choses se sont faites. Mais en fait, je crois que c'est ça. Quand moi, j'aurais fait le deuil... autant qu'on puisse le faire, hein, parce que je pourrais pas l'aider, parce que je suis pas une épaule sur laquelle il peut s'appuyer, en fait. Et ça, je l'ai compris la semaine dernière. 10 ans. Donc, j'avais pas l'impression que j'avais besoin de ça. J'avais juste besoin d'être là pour lui.
De pas avoir su protéger ma fille, ça, c'est pour moi l'échec... C'est brutal, c'est violent, c'est... Comment deux êtres humains pour de l'argent peuvent tout détruire, tout casser, tout...
Moi, je les imaginais pas en difficulté. Alors, difficulté, là, hein, par rapport à justement cette... Le fait que la première personne était en béquille, bon, ça nous donnait une autre image d'eux, quoi.
Ça rassure un peu?
Quelque part, la montagne s'est écroulée. C'est pas que ça rassure. C'est qu'en fin de compte, ça m'a troublé. Dans les propos échangés assez rapidement, c'est cette personne qui, à un moment, est venue à dire « Mais je suis victime ». Oui, et après, bon, ça a été chaud parce que je vous assure que ça a duré un moment, les échanges par rapport à ça, où chacun a défendu sa façon de voir les choses, et il a compris qu'il fallait pas renverser les rôles. toi, à un moment, t'as eu le choix. T'as eu le choix. Tu pouvais ne pas mettre les coups de couteau. Tu pouvais. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Nous, on l'a subi. Moi, la balle que mon fils, il a pris dans la tête, on ne peut pas l'enlever. Mes amies féminines qui étaient là, ce qu'elles ont subi, on ne peut pas l'enlever non plus. C'est encore bien réel. Toi, tu avais le choix. Tu pouvais ne pas tuer. Oui, c'est... Là, ça a été, je dirais, un des moments forts de nos rencontres.
De pouvoir dire ça.
De pouvoir dire ça. Alors, moi, j'ai dit depuis le début que autant je pouvais me retrouver en face d'autres meurtriers, mais moi, je n'aurais pas pu me retrouver en face du meurtrier de mon fils. Ça, c'est quelque chose qui aurait été, je dirais, impossible à supporter. Non, non, c'est pas dans... C'est hors de mes possibilités humaines.
Est-ce que quelqu'un a envie de réagir ou de questionner des choses qui viennent d'être dites ?
C'est pas une envie, franchement. C'est vrai que la première fois, j'ai expliqué très brièvement que j'étais là pour une affaire de mœurs. Il y a tentative de viol et tentative de meurtre, qui au final ont fait que j'ai été condamné pour meurtre et viol. Je dis bien des tentatives, c'est-à-dire qu'en fait, personne n'est mort et il n'y a pas eu viol au sens propre du terme. J'étais... Mon ex, je l'aimais autant que je la haïssais, parce que je souffrais, elle n'entendait pas que je souffrais. Et ce qui fait que quand j'ai croisé cette personne, ça a été... C'est la haine que j'avais envers mon ex qui est ressortie, quoi. Donc, il y a eu ce passage à l'acte avec... des moments de lucidité qui, pour répondre un peu à la question que vous aviez posée la semaine dernière, moments de lucidité qui m'ont fait prendre peur. J'ai eu peur de ce que je venais de faire, de ce que je venais de commettre, et la seule chose que j'ai entrevue, ça a été d'essayer de la tuer. J'ai essayé de l'étrangler. C'est seulement quand elle a perdu conscience que j'ai relâché prise. Ça m'a donné... ça m'a fait... m'a fait une grosse descente, quoi. Là, j'étais plus... Il n'y avait plus de défense, il n'y avait plus rien. Et j'ai pris la fuite. J'ai pris la fuite. J'étais plus guidé par la peur que par toute autre idée, quoi. Tout ce que j'attendais, c'est que j'habitais en étage. Tout ce que j'attendais, c'est que les flics arrivent et me défenestraient, quoi. Je vais m'arrêter là pour l'instant.
Thank you.
J'aurais croisé personne ce jour-là sur la route. Je pense qu'il se serait passé quelque chose à la maison. Je ne l'ai pas choisi. Ça a été... Après, ce que j'ai fait... J'ai fait je me suis arrêté. Enfin, sur la route, je l'ai vu, je me suis arrêté. Littéralement jeté dans la voiture. Et là, je commençais à rouler un peu. Si vous permettez que...
La pause maintenant, ça permettra de faire retomber un petit peu la pression et puis on reprendra ensuite sur d'éventuelles réactions ou questions.
Ça te dérange que les larmes montent?
Non, mais ça prouve que je suis pas bon, on peut pas vivre ce qu'on a fait.
Même si c'est quelque chose de très grave,
on essaye. Ouais. On n'y arrive jamais.
Différemment.
Ouais. On essaye, on n'y arrive jamais.
C'est-à-dire qu'on a juste sa vie.
Comment elle va?
J'ai qu'une envie, c'est d'être chez moi, prendre une douche. Je me sens très sale d'être ici. C'est peut-être pas bien de dire ça.
Le pardon, l'accepter, le donner.
Je suis dans un contexte qui ne me convient pas du tout. Mais pas du tout. Je trouve que c'est sale. C'est je me sens pas dans mon élément.
Je dis, moi, je pourrais pas être à la place.
J'ai qu'une envie, c'est d'être chez moi, de me laver, d'être cocooning chez moi.
Les personnes que je verrais en face de moi, même si c'était pas les personnes...
Ce serait pas bien de dire ça.
Me renverraient.
Je sais pas, je me sens pas dans mon élément. Ça sentait mauvais, je mérite pas d'être là. C'est peut-être un but de ma personne, mais je sais pas.
En revanche, on t'a dit quelque chose, tu t'es dit je mérite pas d'être là. Effectivement, tu ne mérites pas d'être incarcérée, d'ailleurs tu l'es pas.
Non, mais je me dis c'est encore à cause de Lascar que je suis là et que je dois encore subir ça, quoi. C'est encore à cause d'eux. Et j'ai une colère qui remonte encore.
Tu dois ou tu choisis?
Je choisis parce que j'ai pas le choix. Je sens bien que j'ai pas le choix. Mais c'est encore à cause d'eux que je suis obligée de subir la prison de Poissy, etc.
C'est à ce prix-là que j'ai réussi à vraiment engager un travail sur moi-même et à avancer.
Mm-hmm. Mais effectivement, tu ne mérites pas ça. Je pense que tout le monde est d'accord.
Mais donc, cette séance, pour moi, elle est hyper traumatisante, quoi. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais je tremblais de partout.
Et je pense que personne n'a envie d'entrer en prison. On est d'accord avec ça aussi. Enfin, mais voilà, je veux dire, personne n'a envie d'entrer en prison. Enfin, c'est une évidence. Et c'est pas un endroit agréable.
Je suis reparti à passer toute la nuit à trembler dans mon lit, à jamais réussir à me réchauffer. Voilà, c'est-à-dire que mon corps, je souffre intérieurement de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai beau en avoir discuté avec, j'en ai discuté avec ma fille. Voilà, à 2 ans, ma fille a posé déjà des questions là-dessus. Pourquoi t'es en prison, papa, etc., etc. Donc. Au fur et à mesure des âges, on a apporté des réponses de plus en plus précises, quoi. Bon, vous avez une gamine qui a 2 ans qui vous dit pourquoi t'es en prison. Vous expliquez à votre gamin, oui, bah papa il a fait une grosse bêtise, c'est pour ça. Alors après, oui, mais le chien aussi fait des bêtises, donc il faut après. Je crois qu'elle avait une dizaine d'années quand elle était déjà au clair avec ce que j'avais fait. Bon,
Si quelqu'un a envie de réagir ou de questionner des choses comme ça, réagir ou de questionner des choses qui viennent d'être dites. Que quelqu'un a envie de démarrer sur un récit peut-être plus personnel de ce qui lui est arrivé et qui l'amène ici.
Réagir, non, je vais vous expliquer ce que l'on a vécu avec ma fille. C'était il y a, ça va faire bientôt 5 ans. Le procès aux assises a eu lieu l'année dernière. C'était un 8 novembre, il y a donc bientôt 5 ans. Deux hommes cagoulés, armés, sont entrés dans la maison. J'ai été réveillée par un homme qui m'arrachait les cheveux en allumant la lumière. Donc je me suis trouvée face à un homme cagoulé, ganté, de noir vêtu avec une arme sur la tête. Ma première réaction, ça a été de lui dire que tout ce que j'avais de valeur, que je lui donnerais tout. Il y a une seule chose que je lui demandais, c'était de ne pas réveiller ma fille. Et bien évidemment, il m'a avoué tout de suite que ma fille était déjà ligotée depuis un moment. Donc là, il y a tout qui s'écroule, évidemment. Il m'a emmené auprès de ma fille. Ils ont reconnu qu'il m'avait suivi depuis 10 ou 15 jours. A priori, ils étaient persuadés que j'avais un coffre, chose que je n'avais pas. Donc, ils ont fait toutes les pièges. Je leur ai donné les bijoux, toutes les choses que je pouvais avoir de valeur. Les cartes bleues, les codes, la voiture, les clés, tout. Donc, ils sont restés plusieurs heures après qu'ils nous ont enfermés dans un placard. Ils sont partis avec la voiture, avec les codes. Ils sont revenus, ils sont repartis. Là, ils nous ont demandé de plus bouger une fois qu'ils avaient tout pris. Manque de chance, ils avaient oublié sur le lit de ma fille le sac à dos avec tous les bijoux et l'argent. Donc, une demi-heure ou trois quarts d'heure après, ils sont revenus. On n'avait pas bougé, évidemment. Et puis là, ils s'en vont, c'est qu'ils ne reviendront pas. Donc là, évidemment, c'est le néant, hein, puisqu'on n'a plus de téléphone, on n'a plus rien, ils ont tout pris. Hein. Donc on a réussi à rebrancher le téléphone maison, j'ai réussi à avoir la police. Ils sont venus, ils ont été extraordinaires, ils nous ont beaucoup aidés après pendant... C'est bien les seuls qui nous ont aidés, d'ailleurs c'est eux qui les ont arrêtés. Ils les ont retrouvés parce qu'ils avaient coupé le scotch pour nous attacher, donc il y avait de l'ADN. Et puis là, c'est l'enfer qui démarre. Et puis depuis, je suis dans la culpabilité de pas avoir su protéger ma fille. Ça, c'est terrible parce que mes deux enfants, c'est toute ma vie. Je ne vis que pour eux. Il y a d'autres choses à côté, mais mes enfants, c'est tout. Et moi, dans tout ça, j'essaye de trouver une petite place. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver une place. Voilà. J'ai très peur aussi de leur sortie. Ça, c'est... Oui, très... J'ai peur qu'ils se vengent, qu'ils se disent que c'est à cause de nous qui sont en prison. Ils ont pris 6 ans, je ne sais pas, je redoute vraiment leur sortie. Le plus dur, c'est de faire semblant d'aller bien. Garder dans un petit coin pour pas trop inquiéter l'entourage. Je cale ça. Dans parle, quoi.
Moi, en ce moment-là, je parle pas pour vous, Pascal, hein, mais c'est pas ma femme que j'avais en face de moi. C'est un objet. J'avais une telle haine que... Où je me suis rendu compte que c'était ma femme, c'est justement quand elle a plus bougé. Et là, c'est tout retombé. Voilà, j'ai essayé de la réanimer, tout ça. Mais entre le moment du passage à l'acte et l'acte en lui-même, je saurais comment dire, comment j'ai pu la prendre là. C'était devenu une poupée de... Bon, c'est une femme de 57 kilos. Moi, je suis quand même beaucoup plus carré. Je l'ai attrapée, je l'ai tellement serrée, tellement serrée. Moi, pour moi, c'était pas ma femme, c'était pas un humain, c'était devenu un objet. Il fallait qu'une chose, c'est qu'elle se taise. Voilà. Et ça, j'ai du mal avec ça, parce que la vraie souffrance, c'est elle qui l'a eue. Et je me dis, quelle image elle a eue de moi avant de mourir. Et ça... Et je reviens pour dire ce que tu sais, Pascal, la peur qu'elle a dû avoir. Du mari qu'elle a eu, je l'ai tellement protégée, elle l'a tuée. Et ça... J'y arrive pas. Après moi, sur ma peine, je veux pas sortir avec une conditionnelle. Je veux aller jusqu'au bout de ma peine. C'est, dans ma tête, c'est le minimum que je puisse faire. C'est ma peine à moi.
Et le jour où je pourrai me coucher, éteindre la lumière, promis, je penserai à vous tous et là, j'aurai gagné une bonne partie du chemin.
Des questions un peu pour Christophe et José. Bon, toujours pareil par rapport à ton récit de la dernière fois et à ton... et au fait que tu veuilles faire ta peine sans sortir avant, enfin je sais plus, je connais pas les termes. Est-ce que c'est parce que tu penses qu'à l'extérieur tu peux potentiellement recommencer? Est-ce qu'avant, éventuellement, tu avais peut-être déjà eu des pulsions, je sais, on appelle ça comme ça, je sais pas. Voilà, en gros.
Alors, vraiment, pour moi, il n'est pas possible que je récidive. Hein, pour tout un tas de raisons. C'est pour ça que j'avais un peu expliqué ma vie d'avant.
En fait, je pense... Enfin, je demandais si tu te sentais apte, du coup, à sortir. Enfin, apte... Enfin, voilà.
Tout à l'heure, ce que j'expliquais un peu, J'ai tous les moyens de sortir. J'ai tous les moyens, j'ai des projets pour la sortie, j'ai appris un métier. Je me suis donné tous les moyens. Je reprends des études, je suis en train de voir là pour une formation avec le Pôle emploi. Donc, c'est pas l'envie qui me manque de sortir. C'est plus vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de la société. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je ne pourrais jamais sortir de ça. Pas qu'on puisse sortir après, sortir de tous les traumatismes, toute l'émotion, toute la douleur que tout ça a pu faire, mais je sais clairement que je ne pourrais jamais me dire je sors, je refais ma vie. Ça ne sera jamais possible. Mais voilà. Je me sens prêt à retourner dans la société. Je sens que j'ai fait un travail qui est suffisant. Je sens que, mon histoire telle que je la connais, telle que j'ai travaillé dessus, je sais que pour moi, le risque de récidive, pour moi, le risque, il n'est pas là. Le pire que je pourrais faire en sortant dehors, c'est au bout d'un moment me dire j'en ai marre de vivre dans cette société et je mets fin à mes jours. Voilà, j'ai jamais levé la main sur mon ex-femme, etc. J'ai jamais été violent dehors, je me suis jamais battu ou quoi que ce soit. Voilà, j'avais une vie sociale, je travaillais, etc. Donc, c'est.
Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à parler. Moi, je sais qu'ils vont sortir bientôt. Enfin, pour moi, dans 2 ans, c'est bientôt. Ça, c'est... Pour ma fille et moi, c'est ce qu'il y a de pire. Le fait qu'ils puissent sortir... Je sais pas si vous avez conscience, si un jour vous sortez de... Si vous pensez aux victimes, si vous pensez à la peine que vous avez fait autour de vous, de vos enfants, de votre famille, ce qu'ils peuvent penser de vous, quelle image vous laissez à la société. Et ça, j'accepte pas, je pardonnerai pas, j'arrive pas à la sortir, cette colère, j'arrive pas à... Je sais pas. C'est vrai que... Je vis seule, je pense pas que je pourrais refaire ma vie parce que avoir un homme auprès de moi, à part mon père et mon fils, ça m'insupporte. Et ouais, je suis dans la colère, dans la haine, je suis pas dans le pardon et peut-être que ça viendra un jour, mais aujourd'hui, ce sera pas aujourd'hui en tout cas.
Non mais, je veux dire, ce qu'on vous demande, c'est d'être respectueux, d'être attentif. C'est pas de préserver les victimes, pas plus qu'on leur demande à elles de vous préserver. Elles vous ont posé des questions qui pouvaient être extrêmement violentes, extrêmement embarrassantes. Après, j'ai eu la sensation qu'elles le faisaient en essayant de faire preuve d'un minimum d'attention à vous. Mais elles les ont posées quand même. Quoi. Donc, n'hésitez pas à être pareil. Vous n'êtes pas là pour prendre soin d'elle. Ça, il y a d'autres professionnels pour le faire, il y a d'autres choses. Vous n'êtes pas responsable de leur bien-être. Vous êtes là pour dire les choses juste telles que vous les ressentez et telles qu'elles sont vraies. C'est pour ça que je te disais, Stéphane, voilà, ce qui les intéresse, c'est de savoir que vous assumez votre acte. C'est pour ça que le moment du récit est un moment important, parce que ça veut dire j'assume. Et c'est pour ça que c'est important pour elles de commencer par ça. Mais à partir de là, tout est possible. Et après, elles peuvent ne pas être d'accord. Mais l'important, c'est de les dire, les choses. Et elles vous diront pourquoi ça les choque, éventuellement.
Parce que aujourd'hui, j'étais au préparé. Vous voyez,
j'assume par rapport à elles. Voilà.
Voilà.
Là, c'est pas rien.
Et quand on dit, vous êtes stop, parce que c'est pas rien, c'est après, vous se battez à pas ma place aussi.
T'arrives à en parler devant une personne que tu connais pas. Et que
moi, j'ai mis les mots juste sur ce que j'ai fait. Je l'ai pas fait en 3 séances de 2 heures. C'est 16 ans de travail que j'ai derrière.
Oui. Je la connaissais pas.
Les paquets clopes, ils vont fumer ce soir, cette nuit.
Ouh.
peut-être en deux mots, un peu plus long. J'ai trouvé très courageux ton récit, vraiment. Parce que concernant mon affaire, la personne a nié les faits. Et je pense que c'est ce que j'aurais aimé entendre. Au procès ou après. Et je, encore aujourd'hui, 10 ans après, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Que ce soit une raison bidon ou. J'ai rien. Donc je trouve déjà que. Pour vous tous, quoi, reconnaître les faits, c'est. Ne serait-ce que pour vos victimes, je pense que même si ça n'excuse pas, c'est vraiment un grand pas. Moi, j'ai pas toutes ces réponses. Vous me les apportez un peu. C'était mon ex-conjoint. Donc, ça fait quoi ça? C'était prémédité. Donc voilà, il y a plein de choses. Même si ça n'a pas été reconnu dans notre cas, mais quelqu'un qui va régler ses comptes avec un marteau, pour moi, c'est prémédité. Donc voilà, pour l'instant. Merci.
Vous avez dit que vous alliez peut-être sortir à un moment ou un autre. Alors moi, il y a une question que je me pose depuis quelques semaines. J'en ai parlé avec Mathias hier. Moi, j'étais pas seule, vous le savez, donc je parle à nos deux noms. Notre terreur, parce que c'est le mot terreur, c'est le comportement qu'ils vont avoir quand ils vont sortir. Et ça, pour l'instant, personne ne peut répondre à ma question. Des policiers m'ont aidé, m'ont guidé un peu, mais je voudrais savoir si un jour vous sortez. Quel sera votre comportement par rapport aux victimes? Est-ce que ce sera de la vengeance, ce sera du regret? Parce que ça, j'ai pas de réponse. Et nous, c'est notre grand souci. Comment on va faire quand ils vont sortir?
Je réagis immédiatement sur le dire.
La victime comme sa famille, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, je vois toujours de la pensée pour eux. Moi, aujourd'hui, j'ai redressé la tête, si j'ai fait le pas court sur moi-même, en lançant sur le fond de mes tripes le mal que j'ai pu faire. Moi, j'ai ma victime j'ai sa photo permanente dans ma tête. Même au moment où je suis en train de vous parler, j'ai sa photo dans ma tête. La seule haine que j'ai, c'est contre moi. Et ça, je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours. C'est moi qui ai été enlevé la vie, c'est pas lui qui a demandé. Et ça, c'est pas quelque chose pour moi, je suis pas là pour mentir. J'ai passé beaucoup de rapports d'experts psychiatres, justement, et psychologues quand on fait les dossiers de management de peine. Aujourd'hui, j'ai un taux de récidive de 0. Parce que le chemin, il a été fait. Et c'est moi qui lui demande le chemin. C'est moi qui étais demandeur de ce chemin-là. Et même quand je serai plus sous ma justice, je demande toujours avant mon parcours psychologique à faire. Parce qu'au bout de plusieurs années de prison, je vais te rencontrer des difficultés au sein de la société que je suis plus habitué à pouvoir à gérer, entre guillemets, même si ici j'ai mon indépendance. Mais je vais rencontrer certaines que moi j'étais coupé du monde pendant 16 ans.
Comme d'habitude, la veille et le lendemain des RDV, pour moi, c'est le moment où j'ai plein de trucs sur le papier. Ah, je dirais... avec des gros guillemets, c'est de plus en plus léger quand même. Je me sens de moins en moins stressé, je ne tremble plus. Par rapport aux premières séances, c'est pas que ça soit moins dur psychologiquement, mais il y a bien quelque chose qui se passe.
Bon, bah moi, la semaine s'est bien passée. C'est la première fois depuis, en tout cas, les RDV où je me suis sentie bien, même très bien. J'y ai très peu pensé et quand arrivé le week-end, j'ai pensé au fait que je n'y pensais pas. Je me suis demandé pourquoi. Je dis, tiens, c'est bizarre. Pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi j'y repense pas? Et en fait... tout en faisant mon ménage, je réfléchis beaucoup quand je fais mon ménage. Et du coup, je me suis dit que j'avais vraiment envie de me libérer de tout ça et de passer à autre chose. Que pendant des années, en fait, je m'étais empêchée parce que bah, cette tristesse était toujours là, mais j'en veux plus. L'histoire sera toujours là, j'oublierai pas, mais je veux plus de cette tristesse, en fait. Donc, voilà, j'ai envie d'avancer, d'être positive, justement. Avant, j'étais un peu comme toi, à me dire, oh là là, non, t'emballe pas, parce que ça, il va t'arriver un truc... T'as jamais eu de chance, ça va... Ben non, aujourd'hui, j'ai envie de positiver pour tout, pour rien. Et puis, si un jour, j'ai pas de chance, ben j'aurai pas de chance. Mais le lendemain, ça ira mieux. Et vraiment, j'ai envie de voir les choses différemment parce que j'arrive à un âge, la moitié, la quarantaine, quoi. Et ouais, il y a eu trop de choses avant. Et j'ai vraiment... Non, c'est pas vieux, mais... Non, mais je me dis que si je passe ma vie comme ça, ça va être la cata, c'est pas possible. Et oui, on aura... Enfin, vous avez fait des erreurs, j'en ai fait aussi, peut-être pas à la même hauteur, mais ouais, peut-être qu'on peut quand même voir des choses positives. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite.
Moi, je voulais vous raconter quelque chose. Je voulais te remercier, Stéphanie, parce qu'on a eu un petit échange tout à l'heure de... Et tu m'as dit une chose qui m'a touché, quand même. Tu m'as dit, je comprends pas pourquoi tu vas aller jusqu'au bout de ta peine. Et ça, parce que j'avais dit que je voulais faire ma peine jusqu'au bout sans conditionnel. Et tu vois que toi, tu penses ça en tant que victime, ça montre quand même que il n'y a pas que des gens qui veulent le mal pour les gens qui ont commis des actes.
Je pense que quand on est prêt... Enfin, si vous vous sentez prêt, vous avez des gens qui vous entourent ici et même à l'extérieur. Je pense que quand, si vous sentez comme quelqu'un qui pouvait effectivement récidiver ou il y aurait, enfin, c'est pas l'impression que vous me donnez.
Mais je sais pas si t'imagines le travail que t'as fait en un mois.
Ouais, j'ai du mal à m'en rendre compte. Je pense que la pause d'un mois va être.
Parce que je pense qu'il y a un mois, tu n'auras pas eu ce discours.
Du tout. Ah non, c'est sûr.
Voilà. Et tu vois, finalement, au fond de toi, tu commences à vivre. Et ça. Tu vois, ça fait plaisir de te regarder comme ça, tu vois. Franchement, et va dans le sud.
Mais je pense que quand on est victime et qu'on vient à Jean de Réunion, c'est pour repartir à la fin et avoir eu des réponses à nos attentes et surtout essayer d'aller mieux. Et moi, si je pars de là demain, je suis incapable de trouver un mot pour rassurer ma fille et lui dire, tu vois, ils vont sortir et tout ira bien et tout va bien se passer. Et j'ai pas de mots, j'ai pas de réponse, je suis toujours dans les attentes et voilà, et je repars avec 6 problèmes au lieu d'un. Parce que c'est, pour moi, c'est 6 problèmes qui se mélangent là-haut et ça bouillonne et ça me fait péter les plombs.
Samedi 1er mars. Nous avons convenu avec Jean-Claude, mon co-animateur, que nous ne nous attendions pas pour rentrer. Le premier arrivé entre et commence à faire appeler le premier détenu, car je crains que nous manquions de temps. Je prévoyais d'être la première parce que venant plus loin et n'ayant jamais fait de trajet en voiture, j'avais prévu large. En effet, il est 7h40 lorsque je me présente à l'entrée alors que nous avons rendez-vous à 8h. Heureusement, puisque les péripéties font que nous ne sommes en mesure de voir le premier détenu qu'à 8h45. Plus jamais rencontrer les détenus au dernier moment et on est donc contraint par le temps.
Condamné victime, un dialogue possible. Les rencontres. Avec Pierrette Poncella, Alain, Stéphanie, José, Christophe, Stéphane, Pascal, Nadège Bézard et Mathias Morin. Merci à l'administration pénitentiaire, à toute l'équipe de la centrale de Poissy, l'IFJR, Isée Productions, France Victime et Laurent Benahim. Prise de son, Jean-Marie Porchet. Mixage, Éric Boisset. Un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez tenter le dialogue, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour la remise de peine ou nous réécouter en probation, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, dernier épisode, ni pardon, ni oubli. Et pendant 2 semaines, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire, le film de Claudine Bory, Monsieur contre Madame. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission.